Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'une des affaires les plus célèbres des années 50. Le double meurtre en 1956 à Saint-Cloud près de Paris de deux jeunes amoureux de 19 et 20 ans qui s'appelaient Nicole Dépouet et Joseph Tarago. Deux gamins qu'on a tués pour leur voler l'équivalent d'une cartouche de cigarette. C'est une enquête qui a été tellement suivie à l'époque que deux stars de la littérature, Françoise Sagan et Marguerite Duras, ont assisté au procès. Je débrieferai cette histoire dans un autre podcast avec Bernard Hauteclocq, historien, membre de la Société française de l'histoire de la police. La réalisation de cette histoire est signée Mathieu Fret.
Europe 1, Christophe Ondelat.
La première scène de cette histoire est assez touchante. Nous sommes à quelques jours de Noël 1956, le matin du 22 décembre. Dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris, sous le panneau Allée de la Félicité, un promeneur tombe sur deux cadavres. Deux jeunes, pas plus de 20 ans, c'est sûr. Un garçon et une fille. Un joli petit couple, sans doute. Et là où la scène est assez touchante, c'est que tout près des deux corps, il y a un chien, un épagneul. Un épagneul qui semble attendre le réveil de ses maîtres. Ils ne se réveilleront pas, tes maîtres, mon pauvre Wawaf. Ils ne se réveilleront pas. Et toi, sans doute, tu sais comme cette mort est injuste. Tu sais ce qui leur est arrivé. Nous, pas encore. Quand la brigade criminelle arrive sur place, elle fouille les corps. Elle ne trouve aucun document d'identité. Et regarde, on a peut-être une piste. Le chien là, regarde, il y a un nom sur son collier. Grâce au fichier d'état civil, les policiers trouvent une adresse qui colle avec ce nom. Et c'est comme ça qu'ils identifient le cadavre de la jeune fille, Nicole Dépouet. Elle avait 20 ans. Elle vivait chez sa tante, Anita. Et le jeune homme mort à ses côtés, c'était son fiancé, Joseph. Joseph Tarago, 19 ans, stagiaire à l'ORTF. Ils allaient se marier au printemps. La tante Anita raconte qu'hier, ils étaient allés se promener en amoureux. Je leur avais prêté ma voiture, une Peugeot 203. Vous l'avez pas trouvée? Non. Non, ils ne l'ont pas trouvé. C'est peut-être pour ça qu'on les a tués. Pour la voiture. Ce qui va faire la célébrité de ce double meurtre, c'est la tati, la tante Anita, Anita Soler. D'abord, c'est une ancienne résistante. 1956, 11 ans après la fin de la guerre, ça... Mais surtout, c'est une comédienne assez populaire. Elle joue dans des pièces de théâtre pour la radio. Et ça explique pourquoi, à partir de maintenant, la presse va se passionner pour cette affaire. Jusqu'au bout. La crime démarre son enquête avec pas grand-chose. Pas de témoins. Personne n'a rien vu, rien remarqué, rien entendu. Un soir d'hiver dans le parc de Saint-Cloud, autant vous dire qu'il n'y avait pas grand monde dehors. Le mobile, crapuleux, sans doute. On a volé leur portefeuille et leur voiture. Est-ce que le voleur est tombé sur eux par hasard? Ou est-ce qu'il les connaissait et il les a suivis? Comme on dit à ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses sont envisageables. Tu t'es renseigné sur leur passé? Leur passé? Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient comme passé? Ils avaient 19 et 20 ans. Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils se connaissaient depuis le lycée, puis qu'ils n'avaient pas d'ennemis en particulier. À propos, de quoi sont-ils morts? Direction l'Institut médico-légal de Paris. Alors, j'ai retiré dans chacun des deux corps deux balles de 7,65. Et j'indique que dans les deux cas, c'est le deuxième tir qui a été fatal. Autrement dit, ils ont été achevés. Mais c'est l'expert en balistique qui apporte les éléments les plus intéressants de ce début d'enquête. Les quatre balles, messieurs, n'ont pas été tirées par la même arme. Nous avons deux séries de balles. Et donc deux armes. Et donc probablement deux tueurs. On retrouve la Peugeot 203 que leur avait prêtée la Tati deux jours après, abandonnée dans une rue à Serres. Il y a des traces de sang sur les deux sièges avant et sur chaque siège, un trou de balle. Pardonnez l'expression. Et donc, hypothèse,
moi je pense qu'on les a tirés une première fois dessus, dans le véhicule, et puis, à mon avis, on les a traînés à l'extérieur et on les a achevés à l'extérieur.
Dans la voiture, pas d'autre empreinte que celle du couple. Les tueurs portaient sans doute des gants. À cause de l'époque, on pense un temps au FLN, les indépendantistes algériens. C'est le quotidien Paris Midi qui se lance là-dedans. C'est hasardeux. Nicole et Joseph n'étaient engagés ni pour ou ni contre l'indépendance. Et le FLN ne s'est jamais attaqué à des Français en métropole. Piste à la noix, vite abandonnée. D'autant qu'il y a une autre piste. Le gardien du parc de Saint-Cloud, Bernard, c'est un ancien d'Indochine. Les policiers l'ont interrogé, naturellement. Il était complètement à côté de la plaque. Il se mélangeait sur les lieux, sur les dates, et il s'énervait quand on lui posait des questions. Alors ils sont allés voir ses collègues.
Bernard, il est bizarre depuis l'Indochine. Vous savez ce qu'il fait la nuit? Il se promène avec ses armes dans le parc. Et il dit qu'il fait des rondes pour chasser les viettes. Je pense qu'il est traumatisé.
Les anciens d'Indochine qui partent en vrille, ça arrive. Et bien sûr, l'oiseau connaît les armes. Il en a, forcément. Alors on perquisitionne sa maison de gardien, en lisière de forêt. On y trouve un fusil de chasse, un revolver militaire, des munitions et surtout un pantalon treillis taché de sang. Le gars se retrouve donc au quai des Orfèvres.
Le pistolet ? Bon, le pistolet, je l'ai ramené de l'armée. Puis j'ai un fusil de chasse, comme beaucoup. Voilà tout.
Et le pantalon plein de sang, monsieur ? Quelles explications donnez-vous?
C'est du sang de canard. Je me suis taché à la chasse.
On nous dit que vous vous promenez la nuit dans le parc avec votre fusil. Vous vous confirmez?
Je confirme que je fais des cauchemars depuis l'Indo. Je me réveille la nuit en criant « Les viettes, les viettes !» Alors je vais me promener dans le parc. Ouais, ça me calme.
Et vous vous promenez avec une arme?
Non, jamais, ça c'est n'importe quoi.
On vérifie, et le sang sur le pantalon est bien du sang de canard. Et par ailleurs, ces armes ne sont pas compatibles avec le crime. Fausse piste, Bernard le gardien est relâché. Et voilà, plus de pistes. Trois semaines après la découverte des corps de Nicole et Joseph, rien n'a se mettre sous la dent. Enfin, pas tout à fait. Il y a peut-être une piste. Mais attention, ça peut très bien être une impasse. Et par ailleurs, c'est délicat. Les munitions utilisées sont identiques à celles de la police. Et ça, c'est pas courant.
Tu te souviens l'année dernière? Le vol. L'armurerie de la rue Bertin-Poirel. Le type avait réussi à se faire remettre deux pistolets calibre 7,65 de la marque unique grâce à des faux bons de commande de la préfecture de police. Si ça se trouve, c'est le même type.
Et donc, on ressort le dossier Il y a un an, l'armurier a donné une description assez précise du type qui est parti avec les deux fleurs. Un jeune homme, 1m75, les cheveux en arrière, des lunettes sombres et une moustache. Il a dit qu'il portait une blouse grise, comme les employés de la préfecture. Sauf qu'on ne l'a pas identifié il y a un an. Difficile d'envisager qu'on le fasse aujourd'hui. Mais sur ce coup-là, la crime bénéficie d'un coup de pouce. Un mois après le crime, le 17 janvier, un marchand d'électroménager appelle le commissariat de police du 17e arrondissement.
Dites-moi, je voulais vous signaler qu'il y a quelques minutes, un jeune homme s'est présenté à mon magasin. Il avait des bons de commande pour plusieurs appareils de radio. Et alors, comme je l'ai trouvé bizarre, je lui ai dit que je devais les sortir de mon stock et qu'il n'avait qu'à revenir dans une demi-heure. Et alors j'ai vérifié, les bons de commande sont faux.
Les policiers foncent sur place. Et quand le type revient au bout d'une demi-heure, paf, il lui tombe dessus. Et dans sa veste, il trouve un pistolet 7.65, 5 chargeurs et un rasoir à main. Il le ramène au commissariat et là, il s'effondre comme un soufflé, avant même qu'on ne lui ait posé la moindre question.
Oh, allez, vous m'avez bien eu. Ok, ok, le parc de Saint-Cloud, bah c'est moi.
Et là, il sort de sa poche le permis de conduire de Nicole Tepoué et la carte grise de la 203. Du coup, il passe du commissariat du 17e au 36 quai des Orfèvres.
Votre nom ? Vivier.
Prénom ?
Jean-Claude.
Vous avez quel âge ?
Je suis né en 36, ça fait 20 ans.
Vous avez dit à nos collègues du 17e, je cite, « Le parc de Saint-Cloud, c'est moi ». Vous confirmez ?
Ouais. Ouais, je confirme. J'avais besoin d'une voiture pour braquer un PMU. Alors j'avais repéré le PMU de la rue Lafayette. Il y a des millions là-dedans. Voilà que j'ai choisi une 203. Vous savez, c'est la meilleure chignole pour les hold-up, hein, ça.
Et il se met à raconter sans émotion aucune comment il a repéré la voiture et comment il a dézingué ses deux occupants. Un complice, peut-être ?
Non.
Il dit qu'il n'avait pas de complice. Il dit qu'il était tout seul. Mais les policiers pensent toujours qu'ils étaient deux.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme.